Au cours des deux dernières semaines, les activités sportives locales n'ont toujours pas repris et on ne sait toujours pas de quoi le mois de décembre aura l'air. Los Angeles a pris les devants 2-1 contre Tampa Bay dans la course au trophée des ligues majeures. Les élections américaines, est-ce que c'est du sport-spectacle? Michael Wood d'Ottawa remporte une étape de la Vuelta, le Tour cyclisme d'Espagne. Cam Newton n'est pas Tom Brady et pendant que Bill Belichick se cherche un autre corps arrière, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Nos invités aujourd'hui seront Kevin Breton, Yvan Deslauriers, Benoît Huot, François Ménard, François Prince et Élodie Tessier. On retrouve Mathieu Tessier à la régie et en coordination, Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 3 novembre, nous parlerons des Jeux du Commonwealth, d'athlètes qui se sont présentés aux élections, la situation d'organisation sportive provinciale, de l'aide technologique en athlétisme, une athlète indienne qui fait une différence et finalement, l'équipe féminine de basketball en fauteuil roulant qui était en nomination pour un prix. Je vous souhaite une bonne émission et on enchaîne sans attendre avec notre premier sujet. Les prochains Jeux du Commonwealth auront lieu en 2022 à Birmingham, en Angleterre. Il s'agit du plus important événement multisport international qui inclut des épreuves pour des athlètes handicapés dans le tableau officiel des médailles. Les Jeux comprendront également plus de parasports que tous les Jeux du Commonwealth précédents, avec le basketball en fauteuil roulant 3 contre 3 pour la première fois, aux côtés de paraathlétisme, de paranatation, de paracyclisme sur piste, du paratennis de table, du paratriathlon, du paraboulingré et finalement du paradynamophilie. J'en parle avec Benoît Huot, qui sera le chef de mission de l'équipe canadienne à Birmingham. Bonjour Benoît, ça va bien?
Oui, ça va, merci Dominique.
Toi, tu es un ancien athlète paralympique. Tu as aussi participé à des Jeux du Commonwealth. Pourquoi, selon toi, c'est important l'inclusion des athlètes para pour les dirigeants des Jeux du Commonwealth?
Bien, tu sais, depuis des lunes qu'on essaie, en tant que mouvement paralympique, de se faire reconnaître, d'augmenter notre visibilité, notre notoriété. Alors, ce qui est intéressant avec le mouvement des Jeux du Commonwealth, c'est d'offrir cette opportunité-là d'un grand rendez-vous multisport sportif et offrir l'inclusivité aux athlètes para et de compétitionner, de participer, d'échanger aux côtés d'athlètes qui vont se présenter également à leur tour aux Jeux olympiques. Ce qui est intéressant, encore à ce jour, ma première expérience comme athlète aux Jeux du Commonwealth, c'était à Manchester en 2002. C'était la première fois en 2002 que la Fédération internationale des Commonwealth intégrait les para-athlètes à la programmation. Et comme vous l'avez mentionné, les médailles comptaient au tableau des médailles à la fin des Jeux. C'est encore aujourd'hui le seul événement sportif multisport qui laisse une place au parasport. Alors, on leur dit encore une fois bravo. On sait que l'inclusion, la diversité, ce sont des termes très actuels et ils étaient avant-gardistes, ce sont des pionniers et ils le font encore aujourd'hui. Et pourquoi on les applaudit cette fois-ci? Ils ont augmenté le nombre d'épreuves, le nombre de disciplines et de catégories pour athlètes avec un handicap pour participer aux Jeux de 2022 à Birmingham.
Deux choses que j'ai remarquées. Bon, pour la première fois, on va avoir un sport d'équipe para. Le basketball à 3 contre 3, je trouve que ça, c'est un élément intéressant. Un autre élément intéressant, c'est malheureux, j'ai pris ma retraite, mais j'ai vu que la catégorie T34 en athlétisme était offerte pour la première fois. Quand je faisais de la compétition, c'était ma catégorie. Donc, c'est bien de voir que c'est pas... On voit la gamme de diversité des handicaps qu'on voit aux Jeux du Commonwealth, c'est quand même assez intéressant.
Oui, puis, tu sais, c'est mieux que ce que c'était. Moi, je me souviens, à mes premiers Jeux en 2002, c'était une intégration progressive. Donc, il y avait deux épreuves seulement chez les hommes en natation et deux chez les femmes. Aujourd'hui, bien, on est ailleurs. On augmente, mais comme tu le mentionnes bien, on est content de voir la catégorie T34, qui était la tienne lorsque tu compétitionnais. Cependant, on a encore énormément de travail à faire. On n'a pas un programme complet. Au moins, bon, on a une intégration, un sport d'équipe, le basket 3 contre 3. Mais on a encore du chemin à faire pour vraiment avoir un équilibre et que ça soit une certaine parité. Et que ce soit, on parle souvent des compétitions entre les hommes et les femmes. Pour Birmingham, on continue dans cette lignée-là pour parler d'inclusion. C'est la première fois qu'il va y avoir plus de médailles chez les dames. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, c'est les Jeux du Commonwealth qui ont mis ça de l'avant. Alors, non seulement qu'on augmente les épreuves paralympiques, mais on augmente également le nombre de disciplines offertes chez les dames. Alors ça, c'est chapeau. Ça montre encore une fois à quel point le mouvement et la Fédération internationale des Commonwealth fait une priorité pour les différents enjeux sociaux auxquels on fait face, même à l'extérieur du sport, par exemple.
Benoît, juste préciser, T34, c'était pour les athlètes qui ont la paralysie cérébrale comme moi. Je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais je sais être sûr pour nos éditeurs qui ne le savaient pas. L'autre chose que je veux mentionner, tu as parlé de parité tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est faisable dans un contexte d'où il y a plusieurs milliers d'athlètes dans un événement sportif?
Quand tu dis parité par rapport à hommes et femmes ou par rapport aux
handicap.
Sans handicap?
C'est ça, ouais, que tout le monde soit ensemble, qu'il y ait un handicap ou pas, que toutes les catégories soient offertes.
Mais je pense que c'est difficile à la base, sachant qu'en parasport, il y a déjà moins de sports éligibles que pour les athlètes sans handicap. Alors, c'est un défi. Tu sais, que ce soit aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, il y a beaucoup moins de disciplines, beaucoup moins de sports où l'athlète avec un handicap a accès. Alors ça, c'est une chose. On doit continuer à éduquer, à sensibiliser et à augmenter le nombre de disciplines offertes. Et l'autre part, faut comprendre également d'où l'athlète para vient et s'installe et s'intègre également dans tout ça. Tu sais, faut être conscient que par exemple, si on prend un pays comme le Canada, on dit qu'il y a environ 10% de la population canadienne qui vit avec une forme d'handicap. Ça, c'est vraiment tout type d'handicap. Ça peut être un handicap visuel, un handicap physique, un handicap intellectuel. Alors, il faut comprendre qu'on représente, nous tous, même moi avec un pied beau, tu sais, un pied beau, c'est pas un gros handicap, mais je fais partie de ce 10%-là. Et il faut comprendre qu'on est une moins grande population également. Alors, au prorata, c'est difficile d'espérer et d'adhérer à la parité. Cependant, ce qui est intéressant, pour s'en faire la comparaison entre les chiffres, c'est simplement d'augmenter le nombre de disciplines qui est offerte aux Jeux du Commonwealth. Alors ça, c'est déjà un pas dans la bonne direction et on voit qu'on s'améliore. Alors c'est ça qui est intéressant.
Et peut-être un autre aspect qui va, c'est peut-être d'offrir plus de sport pour les personnes qui sont plus lourdement handicapées, par exemple.
Oui, ça c'est aussi c'est un excellent point. Au début, par exemple, c'est ça, c'est des handicaps plus légers pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que la Fédération internationale est capable d'avoir les ressources, d'avoir les intervenants pour aider ces individus? Et ils le font aux Jeux paralympiques, mais c'est ça. C'est une autre approche qu'on doit avoir lorsque non seulement des athlètes avec des handicaps plus lourds ou également des sports qui, en général, il y a certains sports qui la représentation des athlètes va être également avec des handicaps qui va de soi, étant plus lourd qu'un pied beau comme le mien, par exemple. Alors, c'est toutes ces choses-là que même nous, comme même moi, en tant que chef de mission d'équipe canadienne pour Birmingham, on doit analyser, on doit réfléchir et on doit préparer et équiper notre équipe pour s'assurer que les athlètes qui vont participer au jeu, qu'on soit sans handicap ou avec un handicap, et peu importe notre discipline, qu'ils aient vraiment les ressources nécessaires pour être capables d'atteindre leurs objectifs et leurs rêves aux Jeux du Commonwealth.
Et toi, ton rôle comme chef de mission, là, en terminant, ça va s'amener à quoi à Birmingham? Ça va ressembler à quoi?
Mais le chef de mission, là, c'est un petit peu le porte-parole, l'ambassadeur de l'équipe canadienne. Mais bon, on a déjà commencé, on a débuté les travaux en juillet dernier. Et là, bon, avec la pandémie, avec toutes les différentes structures de sécurité et également l'équipe médicale, on a des rencontres régulières à toutes les semaines. Parce qu'il va y avoir 375 athlètes canadiens seulement aux Jeux du Commonwealth en 2022. Alors, c'est une grande délégation. Ça, c'est juste des athlètes, sans compter les entraîneurs, l'équipe de soutien, etc. Alors, mon rôle, c'est ça, c'est de bâtir, avec la direction de Commonwealth Canada, bâtir la meilleure équipe qu'on croit possible pour aider les 375 athlètes et leurs entraîneurs, leur équipe, leur entourage, à atteindre leur objectif pour qu'on puisse avoir la meilleure délégation possible. Alors, en tant que chef de mission, en tant que lead de cette équipe-là, c'est mon rôle de chapeauter tous ces dossiers-là.
Benoît, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne préparation à toute l'équipe et je suis sûr qu'on aura la chance de se reparler en vue des Jeux de Birmingham. Merci et bonne journée.
Merci, Dominique.
Alors, si vous écoutez l'émission en direct ce mardi 3 novembre à 21h, le décompte des élections américaines a déjà commencé. Et pour l'occasion, on a décidé de faire une section spéciale, parler d'athlètes et d'élections avec mon ami Kevin. Bonjour Kevin.
Bonjour Dominique, quelle introduction solennelle avec la musique américaine en intro.
Oui, on trouvait ça intéressant. Je m'amuse beaucoup avec la musique.
J'ai l'impression qu'on a déroulé un grand tapis rouge pour m'accueillir.
Oui, bien, tu le mérites, mon cher Kevin, tu le mérites.
Oui, c'est un peu le cas, oui.
Donc, des athlètes qui se présentent aux élections, est-ce qu'il y en a beaucoup?
Ben, j'ai fait l'exercice, en fait. J'ai commencé par comptabiliser au Canada puis au Québec si c'est un phénomène qui est juste propre à notre nation ou si à travers les différentes nations, à travers la planète, on voit souvent ça, des athlètes qui, une fois leur carrière terminée, décident de se tourner vers le monde politique parce que nous ici, je ne sais pas si on peut dire qu'on est chanceux, mais en tout cas, il y en a énormément des sportifs qui décident de se ramasser soit au Parlement à Ottawa ou à Québec. Je suis sûr que comme ça, rapidement, tu en as certains noms qui te viennent en tête, Dominique, déjà.
Oui.
Là.
Il y en a quelques-uns. Vas-y avec ta liste.
Ben, écoute, on pourrait penser à Ken Dryden, c'est peut-être le plus connu. Il y a Georges Larac qui a une carrière un petit peu moins prolifique, disons, dans le milieu politique, oui. Mais qui a temporairement milité au sein du Parti vert. Il y a Lynn Bessette, Isabelle Charest, au ministre des Sports. Il y a Enrico Ciccone aussi qui a déposé récemment un projet de loi pour interdire les bagarres chez les mineurs au hockey. Donc, c'est légion ici au Canada, mais aux États-Unis, le cas qui nous intéresse aujourd'hui, en raison des élections, évidemment, ben c'est moins populaire ou c'est moins fréquent. Au plus haut niveau politique, c'est-à-dire au niveau national, à la Chambre des représentants qui compose à la fois le Sénat et le Congrès, j'ai recensé juste deux anciens athlètes qui sont toujours en poste aujourd'hui.
Et c'est des athlètes de la NFL. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces athlètes-là?
Oui, c'est deux gars de la NFL, en fait, effectivement, Colin Allred et Anthony Gonzalez.
Pas nécessairement les plus connus, là?
Non, c'est ça. Même si vous suivez le football, c'est possible que ces noms-là ne vous disent rien. Pour ce qui est d'Allred, c'est un avocat qui a joué brièvement avec les Titans du Tennessee. Puis là, ben, aujourd'hui, il représente le 32e district du Texas. Puis Gonzalez, lui, l'autre, ses droits ont appartenu aux Colts et aux Patriots. Il a joué quelques matchs en carrière avec les Colts, qui a tenté de relancer sa carrière avec les Patriots. Ça n'a pas marché. Et il s'est spécialisé ensuite en administration des affaires. Et depuis, il représente le 16e district de l'Ohio. Et ça fait pas si longtemps, en fait, les deux ont été élus la même année aux élections de mi-mandat en 2018.
Les États-Unis ont un système électoral différent du Canada. On semble qu'ils sont en élection à chaque année, mettons. Donc, les élections de mi-mandat en 2018, il n'y avait aucun athlète au Congrès ou au Sénat?
Avant ceux-là, non, ou en tout cas, ils ont été défaits lors de ces élections-là. Mais si on retourne beaucoup plus loin par le passé, on va quand même retrouver d'autres noms plus célèbres. Jim Bunning, qui est un joueur de baseball, c'est le seul athlète dans l'histoire qui a été à la fois admis au Temple de la renommée du baseball et à la Chambre des représentants. Il y a aussi Ben Nighthorse Campbell, capitaine de l'équipe américaine aux Jeux olympiques de 1964. Mais c'est vraiment au football qu'on va retrouver le plus grand nombre de joueurs qui, après avoir accroché leurs crampons, vont décider de servir le public via le monde politique.
Est-ce que tu penses que vu que les carrières de joueurs de football sont plus courtes, ça peut peut-être expliquer ça?
C'est probablement une bonne raison, parce qu'effectivement, tu vas faire un très bon salaire quand tu vas jouer dans la NFL, ben, si tu es un bon joueur, mais effectivement, ta carrière risque d'être écourtée par les nombreuses blessures. La durée de vie utile d'un joueur de football, je parle de eux comme si c'était du bétail, mais c'est pratiquement comme ça que les propriétaires voient leurs joueurs.
Un peu, oui, je suis d'accord.
À la NFL, comme du bétail. Leur durée de vie utile est assez courte. Fait que ouais, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi ils se ramassent dans le monde politique, mais on en a vu aussi au basketball, là, dans les dernières années, s'intéresser beaucoup à la question politique, notamment avec tout ce qui se passe côté tension raciale aux États-Unis, là.
Je vais te poser une colle, c'était peut-être pas dans la liste de ce que tu m'as envoyé, mais est-ce que tu en connais qui sont présentés au niveau international qu'on pourrait connaître?
Ah, parmi les athlètes, ben, tu veux dire comme dans d'autres pays?
Oui, c'est ça. Ben, moi, j'en connais un que je peux peut-être t'aider là, si jamais.
Ouais.
Peter Stachny, au Parlement de la Slovaquie.
C'est vrai?
Oui, a été élu. Donc, lui, on le connaît assez bien comme athlète.
Ouais, puis lui, il est toujours élu en ce moment en Slovaquie?
Malheureusement, là, tu viens de me poser la colle, tu me l'as retourné. Mais j'ai pas la réponse, on fera la recherche et on en reparlera dans deux semaines, si ça te dérange
ben
pas.
Oui. Ouais, absolument. Puis ben avant que... Je veux aussi parler des représentants handicapés, mais je veux quand même, avant qu'on en arrive là, me dire que moi, j'ai l'impression qu'on va avoir plus d'athlètes qui vont se tourner vers la politique dans les prochaines années, si ce n'est que du fait qu'il y a beaucoup de grands sportifs de vedettes comme LeBron James qui jouissent d'une très grande popularité, qui ont pris la parole récemment en marge du mouvement Black Lives Matter pour s'insurger contre la violence policière, qui a reçu un très bel accueil d'une grande partie des fans. Donc moi, j'ai l'impression qu'on risque de voir plus d'athlètes dans 10-15 ans, une fois leur carrière sportive terminée, décider de se tourner du côté de la politique. Et comme je te disais, Dominique, évidemment qu'on peut pas passer sous le silence les athlètes paralympiques dans cette émission-ci.
Non, c'est vrai.
C'est bizarre un peu. Nous, on va tout de suite penser à Chantal Petitclerc au Sénat.
Oui.
Carla Quattro, évidemment, une ancienne médaillée d'or qui est au ministre des Sports aujourd'hui. Il y a aussi Michel Stilwell au niveau provincial. Même Ken Eyre, j'ai appris ça, député au niveau fédéral, a eu une modeste carrière de hockeyeur junior comme défenseur avant son accident qui l'a rendu quadriplégique.
Et juste sur M. Eyre, je pense qu'on le voit quand on voit des images du Parlement. Il est en fauteuil motorisé. Il est assis à côté, où il était lors du dernier mandat, en tout cas assis à côté de son bureau. Là. Mais si on parle de lui, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais. Donc, lui a joué au hockey junior pendant quelques saisons très modestes avant. Bon, il y a eu un accident, puis là, par la suite, il s'est présenté comme député aux élections fédérales. Il a été élu. Je pense qu'il est en Alberta, lui. Bref, on a déjà quatre exemples juste au Canada. Et j'ai trouvé aucun athlète paralympique américain dans l'histoire qui est devenu soit au Sénat, qui est arrivé soit au Sénat ou à la Chambre des représentants. C'est assez étonnant quand on considère que la délégation américaine paralympique, elle est énorme. C'est une des plus grandes, toutes nations confondues. Ça fait des décennies qu'on produit des athlètes et ces gens-là devraient normalement être des acteurs de changement parce qu'ils veulent faire avancer les droits des personnes handicapées. Mais aucun d'entre eux n'a essayé de profiter de sa notoriété acquise par le sport pour ensuite se faire élire, alors qu'au Canada, c'est une formule qui semble marcher. J'ai quand même trouvé ça assez étonnant.
C'est intéressant, puis peut-être que vu que maintenant le mouvement paralympique aux États-Unis prend encore plus de place, ça risque de changer. Merci beaucoup, Kevin, pour cette belle chronique. Et puis, on se reparle prochainement pour un autre intéressant sujet.
Oui, sous une autre présidentielle.
On espère peut-être.
Au revoir.
Au revoir. La pandémie a grandement affecté le monde du sport amateur au Québec. Seulement les athlètes de haut niveau, et ceux qui profitent d'un programme de sport-études ont pour l'instant le droit de s'entraîner. Plusieurs ont indiqué que la situation aura un impact sur les jeunes et les associations, et les clubs souvent maintenus en place par des bénévoles en souffrent financièrement. Francis Ménard, directeur général de Parasport Québec, se joint à moi, pour discuter de la situation. Bonjour Francis, ça va bien?
Bonjour, ça va bien, toi?
Très bien, merci. Alors, comment ça va chez Parasport, considérant la situation?
Ça va quand même bien. Je te dirais, tu sais, au niveau administratif, on a quand même réussi à garder le personnel en place. On a continué à s'améliorer peut-être au niveau de nos processus internes. Pour ce qui est du sport comme tel, on a fait une petite reprise là en septembre. Là, et certains de nos sports d'été, là, l'athlétisme puis le tennis, ont pu avoir lieu cet été. Mais disons qu'à ce moment-ci, là, tout est mort. Puis on attend les prochaines consignes.
Est-ce que vous avez une idée de quoi ça pourrait ressembler, les prochaines consignes? Ou vous avez une idée ou vous êtes encore dans le néant pour l'instant?
L'idée qu'on pourrait avoir, c'est que il n'y a rien qui va changer dans les zones rouges. Puis la majorité des grandes zones urbaines sont en zone rouge actuellement. Pour ce qui est des zones oranges, les clubs peuvent continuer à s'entraîner, tout ça, mais il y a toujours le défi de trouver des sites d'entraînement. C'est pas tous nos clubs qui avaient réussi à ce que leur site d'entraînement régulier soit ouvert ou qu'ils puissent y avoir accès. Donc, il y a plusieurs enjeux là, selon les zones de couleur et tout ça. Donc, les prochaines consignes, je ne m'attends pas à ce que ça change, là, malgré la lettre ouverte qui a été écrite, la pétition puis les représentations qui sont faites auprès du ministère. Au niveau du ministère de l'Éducation, là, ce qui est la direction du sport et du loisir, sont plutôt d'accord avec nous là, concernant le sport organisé versus le sport non organisé. Mais c'est vraiment au niveau de la santé publique et des autres instances gouvernementales là, qui est plus difficile à faire bouger actuellement. Là.
La ministre Charest a annoncé une aide financière il y a 2 semaines. Vous avez d'ailleurs publié un communiqué suite à cette annonce-là. Je pense que c'était une annonce de 62 millions, une enveloppe totale. Avez-vous une meilleure idée de l'aide qui va être disponible à chacune des fédérations?
Oui, en fait, c'est qu'on a une augmentation. Bien, dans le 70 millions qui a été annoncé, là, il y a un 12 millions à la Ligue junior majeure du Québec. Il y a un fonds de réserve de 6 millions pour la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'est beaucoup d'argent qui ne vient pas ni dans le loisir ni dans le sport. Mais au niveau des fédérations sportives, là, du sport organisé, on a une augmentation de 60 % de nos financements de base en haute performance et pour notre travail administratif. Cette aide financière-là, malheureusement, est difficilement possible de l'envoyer vers nos clubs et vers nos athlètes. Là, dans le fond, peut-être les lieux qui en ont le plus besoin. Donc, il va falloir être créatif, principalement avec l'enveloppe qui touche la haute performance. Ça ne touche que les athlètes qui sont identifiés élite relève. Là, il va peut-être avoir des exceptions pour les athlètes identifiés espoir, mais on parle de la pointe de la pyramide. Puis c'est là où est-ce que nous, on va recevoir le plus gros montant. Donc là, comment aider l'ensemble de nos clubs ou l'ensemble de notre environnement avec de l'argent qui est destiné qu'à la haute performance. Donc là, notre équipe est au travail actuellement pour essayer de trouver des solutions. Le ministère nous accompagne avec ça. L'autre somme d'argent qu'on a reçue de l'autre programme là, pour notre administration, celui-là, on a un peu plus de flexibilité, là, c'est-à-dire que ça va permettre de financer, par exemple, une partie des salaires des employés et l'argent que j'ai trouvé ailleurs pour financer l'argent des salaires des employés, je vais peut-être pouvoir le rediriger vers les clubs. Donc, on regarde aussi là, les possibilités à ce point-là. On souhaite ne pas laisser d'argent sur la table, mais les contraintes, c'est tout des programmes très normés,
ouais, c'est ça.
Là, où est-ce que il y a des contraintes, évidemment, puis il y a une reddition de compte à faire. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans, que ce soit dans l'illégalité ou de se mettre dans une position où il va falloir payer de notre poche ou rembourser. Donc là, on est à évaluer tout ça. On a un peu de temps là, quand même. Là, ils nous donnent grosso modo 2 ans, là, peut-être, là. Peut-être plus, mais disons qu'on a les 2 prochaines années financières pour essayer de dépenser tout ça. Là.
Quand vous parlez de clubs ou d'associations plus bas dans la pyramide, on parle de combien de clubs ou de groupes, par exemple?
À Parasport Québec, là, tout sport confondu, là, on a 6 sports. On a à peu près 22 clubs. Là. C'est pas énorme. Là. On n'est pas une association de hockey. Là. Donc, nous, on a une vingtaine de clubs au sein de Parasport Québec, dont certains clubs d'athlétisme là, qui sont membres chez nous et à la Fédération québécoise d'athlétisme. Donc, on va peut-être avoir à supporter, en tout cas, j'aimerais supporter entre 15 et 20 clubs. On va voir ce qui va être possible de faire, c'est quoi leurs besoins. Là, on va tomber en... On va faire une analyse de leurs besoins, que ce soit financier ou autre, là. Mais notre objectif, c'est essayer de redescendre de l'argent vers eux pour les aider. T'sais, c'est sûr, il y a eu un arrêt des activités, fait que théoriquement, ils n'ont pas eu de dépenses, mais reste que on a le goût de donner un coup, une tape dans le dos, là, de remercier les clubs qui ont continué à soutenir leur structure. C'est des parents bénévoles, c'est des bénévoles, c'est des gens qui sont pas payés pour faire ça dans la vie, qui ont un autre job. Puis ça n'a pas été facile de traverser cette crise-là, de travailler avec les instances locales pour retrouver du temps d'entraînement ou garder contact avec leurs athlètes. Donc, si on est en mesure de leur donner un coup de main avec l'argent qu'on a reçu du gouvernement, c'est sûr qu'on va essayer de le faire.
Et cette situation-là qu'on connaît présentement, est-ce que vous pouvez maintenir le fort encore longtemps?
Bien, nous, notre situation financière par rapport est quand même bonne. Malgré tout, là, avec les différentes aides qui ont existé, puis les différents programmes où on a réussi à aller chercher de l'aide financière, là, on est quand même bien. Fait que, la fédération comme telle, là, on est quand même des assises solides pour durer longtemps. Maintenant, on n'est rien sans la structure en dessous, sans les clubs, sans les participants, sans les gens qui pratiquent les sports finalement. Donc, là, on n'a pas d'indication où est-ce que comme il va y avoir des départs massifs de pratiques dans le sport. C'est sûr quand on va réouvrir les affiliations, on va sûrement avoir une baisse de pourcentage assez marquée parce que les gens ne peuvent pas s'entraîner actuellement. Mais lorsque ça va revenir à la normale, moi, je m'attends, là, c'est plus un feeling, là, mais je m'attends à ce qu'à l'intérieur de 2 ans, on retrouve le niveau de participation parce que les gens en ont besoin et ils aimaient ça. C'est pas nécessairement la crise qui va les arrêter d'aimer continuer à pratiquer leur sport. Puis au contraire, ils vont avoir besoin de socialiser puis de retrouver leur gang, là, si je peux dire.
Francis, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Et pour nous, on s'en va à la pause. Merci. Au revoir.
Merci, Dominique.
Welcome to the Halftime Show.
Doing anything. see us. We'll see you again soon. Thank you. Bye. Good night.
Alors, c'était le spectacle de la mi-temps, You Should Be Dancing, des Bee Gees. Cette chanson a été chantée par Anthony Kalea lors de la cérémonie clôture des Jeux du Commonwealth en Australie en 2018. Maintenant, mon prochain invité est François Prince. Et au cours des dernières semaines, deux événements ont eu une incidence sur l'athlétisme au cours des années à venir. Tout d'abord, les records du 10 000 mètres masculin et le 5 000 mètres féminin ont été battus coup sur coup. Certains observateurs se posent toutefois des questions sur la valeur de ces records, parce que l'aide extérieure semble avoir favorisé les chronos des deux athlètes. Tout d'abord, grâce à des chaussures spéciales, ils ont de plus bénéficié de témoins lumineux en bordure de piste, pour leur dicter le rythme à suivre. Le deuxième événement, le tribunal arbitral de sport a rejeté lundi dernier la possibilité pour le sprinteur né sans jambes Blake Leeper des États-Unis de tenter de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 avec ses prothèses qu'il utilisait jusque-là. J'en parle donc avec M. Prince, qui est docteur en biomécanique et professeur à l'Université de Montréal. Bonjour François, ça va bien?
Bonjour Dominique, oui, ça va bien, merci.
Ces records du monde ont été homologués par la World Athletic, qui est la fédération internationale, qui régit ce sport donc, mais on est loin des conditions normales. Alors, pourquoi les avoir acceptés?
Alors, je vois que c'est clair que d'avoir utilisé des signaux lumineux qui dictent le rythme aux athlètes est un avantage incontestable comparativement à d'autres circonstances de compétition où il n'y a pas ces témoins lumineux-là. Alors, je ne comprends pas comment ça se fait que l'Agence mondiale a accepté d'homologuer ces records-là dans ces conditions-là.
Donc, pour toi aussi, donc tu te poses aussi ces questions-là, là, pourquoi la World Athletic, est-ce que tu aurais une opinion sur le sujet, pourquoi ça aurait été accepté?
Oui, il est clair pour moi que d'avoir une rétroaction visuelle à suivre t'aide énormément pour garder le rythme. Quand tu cours à ces allures extrêmes-là, sur des distances de 5000 et 10 000 mètres, si tu as quelque chose pour t'aider, soit un lapin, et ça c'est on s'entend que c'est légal au moment où on se parle, d'avoir des gens qui te coupent le vent, mais aussi qui te donnent le rythme. Les témoins lumineux te donnent une rétroaction qui t'entraîne et qui fait en sorte que tu vas garder le rythme et tu n'es pas soumis à toi-même. C'est un avantage externe que je juge incompatible avec l'obtention d'un record.
Donc, est-ce que tu penses que ces records-là devraient être assujettis d'un astérix à tout le moins?
Tout à fait, tout à fait. Sinon, on va se retrouver sur toutes les distances, à partir du 200 mètres, si tu veux, jusqu'au marathon, à avoir des témoins lumineux pour te dicter le rythme. Alors, on ouvre une porte importante et je crois qu'on va bientôt reculer sur ces apports externes-là technologiques.
C'est la Fédération internationale qui fixe les règles pour dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas, le lapin, comme tu as mentionné, ou encore le type de chaussure. On se base sur quoi pour établir les règles?
On se base sur le fait qu'un athlète ne devrait pas avoir un avantage quelconque qui est inéquitable par rapport aux autres athlètes. Alors, il n'est pas permis d'avoir des chaussures qui mesurent 30 cm de haut pour faire du son hauteur, parce que c'est clair que dans ce cas-là, tu vas avoir un avantage pour sauter plus haut. Alors, la règle qui est bien décrite au niveau du règlement 143, c'est que la chaussure devrait avoir certaines caractéristiques en termes d'épaisseur, la longueur des crampons, etc.
Mais il n'y a rien qui empêche la Fédération internationale de demain matin changer une règle et puis permettre de une chaussure qui changerait la donne à tout le monde, par exemple?
Certainement que la Fédération pourrait ouvrir la possibilité d'avoir une chaussure plus performante, mais il va falloir qu'elle soit disponible pour tous les athlètes. Alors, On se souviendra, je vais juste de montrer le parallèle entre il y a plusieurs années en natation, on avait une combinaison qui ressemblait à des écailles de requin, de la peau de requin, qui favorisait très nettement la performance en natation. Et ce costume-là a été banni quelques années plus tard parce qu'il offrait un avantage trop important qui n'était pas accessible aux autres athlètes. Pour la chaussure, il y a maintenant plusieurs compagnies utilisent des plaques de carbone à l'intérieur de leurs chaussures, mais récemment, l'IAF a réglementé que ces plaques-là ne devraient pas plus de une dans chacune des chaussures pour donner de la rigidité à la chaussure.
Mais toi, tu as étudié en biomécanique. C'est quoi la limite du corps humain en termes de record?
Moi, je vais peut-être te surprendre avec ma réponse, mais il n'y en a pas de limite. L'humain s'améliore, les techniques d'entraînement s'améliorent d'année en année et il n'y a pas un record qui va tenir pour toujours. C'est impossible. Et on l'a vu dernièrement dans des conditions très favorables qui ne seront pas homologuées, mais le Kenyan qui a couru sous les 2 heures au niveau du marathon, alors c'était quelque chose qui était impensable, mais il a démontré que l'humain est capable de telles performances. Des fois, ça prend plusieurs années pour battre des records et qu'il faut homologuer, mais l'humain va toujours aller plus loin et plus haut. C'est clair.
Donc, rapidement, on pourrait voir un record du monde du 100 mètres en bas de 9 secondes, par exemple?
Dans 20 ans, probablement.
Intéressant.
Écoutez, moi, je me souviens, j'étais jeune athlète à l'époque, et j'ai Ben Johnson, les performances de 9,79, je pense qu'il avait couru, on trouvait ça absolument phénoménal. Mais aujourd'hui, 9,58, Usain Bolt, et qui a couru ça il y a déjà plusieurs années, mais c'est encore autant spectaculaire. Alors, on va avoir un autre athlète meilleur que Usain Bolt qui va se développer dans les prochaines années, c'est clair.
Je vais aussi rapidement parler de l'athlète américain qui ne peut pas participer aux Jeux olympiques avec ses prothèses. Pourtant, Oscar Pistorius l'avait fait en 2012.
Black Leaper.
Oui, c'est ça, Black Leaper. Qu'est-ce qui a changé entre maintenant et 2012?
Je crois que la fédération a pris une décision qui n'est pas basée sur les bons arguments. Ils ont jugé que les prothèses qu'utilisait Blake Leaper lui donnaient un avantage en termes de grandeur, en termes de hauteur, de stature. Un avantage de 15 cm par rapport à ce que devrait être sa taille. Parce que Blake Leaper est né sans jambes. Alors, on a figuré avec des tables de calcul de grandeur qui devrait mesurer 1,75 m et ses prothèses l'amènent au-delà de 2 mètres. Alors, c'est sur cet argument-là qu'ils ont refusé la participation de Blake Leaper au prochain jeu de Tokyo. Et je pense que c'est un mauvais argument que je pense. C'est bien plus en raison de l'avantage mécanique que procurent ces prothèses pour lesquelles il devrait être non autorisé à participer aux Jeux de Tokyo. Et là, je veux être inclusif au maximum, mais mon métier de biomécanicien et de spécialiste des prothèses depuis plus de 30 ans, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat sur les prothèses, me démontre clairement que les prothèses actuelles et depuis 30 ans donnent un avantage indéniable aux athlètes qui courent entre 100 mètres et 400 mètres.
Merci beaucoup, François. C'est très intéressant. Je suis sûr qu'on pourrait parler de prothèses encore pour le reste du show, mais il y a d'autres invités qui attendent. Mais on va se reparler prochainement. Merci beaucoup, François, et je te souhaite une bonne journée.
Ça m'a fait un grand plaisir. Au revoir, Dominique.
Alors, si la virgule vous donne une petite indication, Yvan se joint à nous. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Je vous parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas et que je ne connaissais pas jusqu'à il y a quelques jours, qui s'appelle Manasi Joshi, et que c'est une joueuse de badminton qui vient des Indes, d'où la musique d'introduction. Et c'est surtout qu'elle a été amputée de la jambe gauche.
Et comment tu l'as rencontré? Comment tu l'as connu, cet athlète-là?
En fait, c'est en préparant, en faisant de la recherche pour cette chronique, que je me suis mis à lire plusieurs histoires étonnantes sur des gens qui transforment leur sport et leur communauté. Et je vous propose donc d'ailleurs qu'à l'occasion, je vous présenterai une chronique qui va s'intituler « Des gens, leur sport et la vie ». Et cette première chronique commence fort. J'ai regardé un article dans le dernier magazine Time qui s'appelle « Les leaders de la prochaine génération ». Et là, on va y trouver une liste de 10 jeunes gens qui, dans leur façon de vivre, proposent des changements majeurs dans la vie et leur entourage. On y trouve Kim Clavel, la boxeuse québécoise, qui a délaissé ses gants de boxe pour un sarrau d'infirmière pour aider à sauver des vies dans un CHSLD lors de la première vague de la COVID. Et on espère pouvoir lui parler dans une prochaine émission. Puis dans la même liste, il y a cette histoire fascinante d'une joueuse de badminton indienne, Manasi Joshi. Et cette histoire m'a même amené à communiquer, grâce à vous, Dominique, avec un de vos contacts en Inde. Alors, je commence par l'article du Time. En 2011, Manasi Joshi était une jeune femme dynamique, ingénieure en informatique à Mumbai. Elle avait 22 ans et venait à peine d'entreprendre sa carrière professionnelle quand un camion l'a heurté sur sa motocyclette. Sa jambe gauche a été grièvement touchée au point où les médecins ont dû l'amputer au-dessus du genou. Après avoir appris à marcher difficilement, il semble que marcher avec une prothèse, c'est tout un réapprentissage. Elle se tourne vers le sport préféré de sa jeunesse, le badminton, pour gagner en assurance avec son corps et en équilibre.
Le badminton, c'est un sport national là, en Inde.
Le badminton, là, votre contact, M. Char, m'a expliqué que c'est un sport d'une grande popularité en Inde, surtout parce que ses athlètes, hommes et femmes, gagnent régulièrement des grandes compétitions internationales. Et selon lui, les personnalités les plus marquantes du badminton sont des femmes. Celles-ci encouragent d'autres femmes à s'impliquer au badminton et à plusieurs sports.
Donc, juste pour situer les auditeurs, M. Char, c'est qui, lui, ce M. Char, là?
Il est impliqué, c'est un de vos contacts autour du monde du boccia.
Oui.
Et j'ai communiqué avec lui. Il est directeur chez Reach Sports. C'est une firme qui bâtit des infrastructures sportives, des stades, des terrains. Mais cette firme a créé une fondation dont la mission est d'utiliser le sport pour permettre aux enfants vivant avec un handicap ou n'ayant pas de moyens financiers de se regrouper, d'avoir du plaisir, de participer à des compétitions et peut-être même d'avoir une carrière sportive.
Donc, Mme Joshi, elle a quand même compétitionné pour faire du badminton. Elle s'est illustrée sur la scène internationale.
Elle s'est tellement illustrée qu'aux championnats mondiaux de para-badminton en Suisse, en 2019, elle a gagné la médaille d'or. Et c'est un peu ironique parce que le jour où elle a gagné, il y a une autre athlète indienne qui a elle aussi, elle qui n'était pas handicapée, qui a aussi gagné une médaille d'or. Alors, l'exploit de Mme Joshi a passé un peu inaperçu pendant quelques jours à cause de l'exploit de sa collègue indienne. Mais à travers les réseaux sociaux, l'Inde a pu connaître sa performance et elle a connu le prestige d'avoir gagné.
Comment le badminton puis Mme Joshi peut aider à améliorer la situation des personnes handicapées en Inde?
Ben, déjà, avant d'avoir gagné sa médaille d'or, Mme Joshi avait fait plusieurs démarches pour qu'on retire, entre autres, les taxes sur l'achat des prothèses et d'autres équipements pour les personnes handicapées. J'ai même vu une vidéo de Mme Joshi qui expliquait que quand elle a acheté sa propre prothèse, elle a eu à payer pendant longtemps à travers son travail pour pouvoir avoir sa prothèse. Donc, c'est pas accessible à tous. Et on ne fait pas exprès quand on a un accident qu'on a de l'argent ou pas. Alors, c'est important que les gouvernements puissent aider dans ce cas-là. Et même à cause de la COVID, Mme Joshi a aussi publié des vidéos qui montrent que c'est pas facile pour une personne handicapée d'aller même faire ses courses. de se déplacer pendant une pandémie. Alors, elle a le souci, puis elle s'est faite reconnaître sur la rue par d'autres personnes handicapées. Elle reconnaît qu'elle a une responsabilité de porte-parole. C'est une personne qui s'exprime vraiment bien. J'ai regardé plusieurs vidéos. Et elle utilise cette facilité-là de communication avec les succès qu'elle a au badminton pour mettre le réflecteur sur la situation des personnes qui vivent avec un handicap, en Inde en particulier, pour demander au gouvernement de faire un effort et de donner un coup de pouce.
Monsieur Char, d'ailleurs, avait beaucoup de bons mots à dire sur Mme Joshi en particulier.
Oui, Monsieur Char... Il reconnaît que Mme Joshi est une personne qui est appelée à prendre énormément de place à l'intérieur de la société indienne. Il reconnaît que les gens qui, les athlètes en parasport et en para-badminton en particulier, n'ont pas encore toute la lumière que les autres athlètes ont. Mais grâce à Mme Joshi, et si on peut arriver à avoir des Paralympiques à Tokyo l'été prochain, peut-être que cette situation-là pourrait changer à cause de cette personnalité-là de Mme Joshi. Puis au Canada, ben, on peut faire un parallèle avec Chantal Petitclerc, avec Benoît Huot, qui eux aussi se sont mis en évidence dans leur sport respectif, en parasport, et qui ont permis de connaître un peu mieux qu'est-ce que ça voulait dire le sport pour les personnes handicapées.
Merci beaucoup, Yvan. C'était très intéressant de connaître cet athlète. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se reparle dans deux semaines.
Merci, à bientôt.
Le 25 octobre dernier, les prix sportifs canadiens 2020 ont été remis dans le cadre du Forum virtuel 2020 d'Atlantique. Les prix soulignent et célèbrent la contribution exceptionnelle de l'individu à l'amélioration du sport au pays. Par exemple, l'entraîneur de para-athlétisme Jean Laroche a remporté le prix du leadership sportif pour sa carrière de 40 ans. Il a entre autres mené les athlètes Diane Roy, Jacques Martin, Colin Mathewson et André Vigée à plusieurs médailles paralympiques. Lors de la remise de ces prix, Atlantique, qui est l'association des athlètes des équipes nationales canadiennes, tant olympiques et paralympiques, a décerné un nouveau prix en 2020, très à propos, le prix Choix du public pour le moment le plus viral de l'année. Le vote s'est déroulé via la plateforme en ligne hébergée sur le site web de la CBC Sport, la version anglaise de Radio-Canada, où les visiteurs ont été invités à choisir leurs moments viraux préféré parmi une liste de 10 finalistes. Suite à la réception de milliers de votes, la piscine fin de maison de Daniel D. Kisser, membre de l'équipe nationale canadienne, fut le choix sans équivoque du public. Parmi les 10 finalistes, l'équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant féminine était d'ailleurs en nomination, comme je viens de le dire, et Élodie Tessier, une des joueuses, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Élodie.
Bonjour.
Donc, pour cette activité, l'équipe avait fait une vidéo que l'on peut voir sur Facebook et Twitter si on cherche un peu. Peux-tu nous décrire la vidéo?
Oui, bien exactement. Dans le fond, on a eu l'idée là, en équipe là, de faire une vidéo où est-ce qu'on passerait la balle à notre coéquipière, dans le fond. Donc, c'est ça pour soutenir là, durant la pandémie.
Mais vos coéquipiers, là, vous n'étiez pas dans la même pièce, là?
Non, exactement. Moi, j'ai fait ma partie là, de Québec, du Québec, dans le fond, puis il y en a d'autres là, qui étaient de Toronto, mais tout le monde était chez Soural.
Comment, techniquement, comment vous vous êtes organisé?
Dans le fond, c'est une de nos coéquipières là, qui a fait le montage du vidéo. Donc, on a toutes dû là, ce vidéo là, pendant comme 20 secondes. Puis elle a pu faire le montage.
Toi, est-ce que tu savais, par exemple, que tu recevais la balle d'une certaine façon et puis tu la lançais à quelqu'un d'autre? Tu la recevais de qui? Tu le lançais de qui?
dans le fond, c'est ça. Là, on est allé par numéro. Fait que là, je recevais là, la balle de Rosalie, puis là, je la passais là, à mon autre coéquipière. Là. Fait qu'on s'était parlé pour s'entendre à comment qu'on allait recevoir, parce que durant là, la vidéo. Dans le fond, on change un peu là, la balle contre un papier de toilette. Fait que c'est ça, on avait comme planifié tout ça. Là.
Très à propos, le papier de toilette d'ailleurs. Tu as parlé de numéro, tu as parlé de Rosalie. Toi, t'es quel numéro? On parle de Rosalie, c'est bien Rosalie Lalonde?
Oui, Rosalie Lalonde, c'est le numéro 4, puis moi, je suis le numéro 5 de l'équipe.
Pourquoi toi, le numéro 5, par hasard?
Ça a tout le temps été mon numéro chanceux, j'aime le numéro 5. Ouais.
Cool. Bon, on va revenir un peu à toi personnellement. Tu devais commencer ta deuxième année en septembre à l'Université du Texas à Arlington pour jouer au basketball en fauteuil roulant là-bas avec une bourse d'études. Comment ça se déroule dans le cadre de la pandémie?
Évidemment, j'ai fait des choix là, de rester ici au Québec pour la saison là, qui vient de se passer. Là. J'avais retourné là, au Texas en janvier, mais à cause de la pandémie, j'ai pris la décision de faire mes études à distance pour cette session-ci. Mais j'espère bien, on n'a pas encore vraiment de nouvelles concernant la saison, à savoir si on allait avoir des tournois. Mais on espère bien là, quand même là, pouvoir avoir quelques joutes là, la saison prochaine.
Ah, c'est vrai que, vu que les Jeux paralympiques devaient avoir lieu au mois de septembre, tu avais pris une session de break, c'est ça, mais là, tu as décidé de faire des cours à distance, c'est bien ça, juste pour me remettre à ma place, là?
Oui, exactement. Dans le fond, quand j'ai dû revenir en mars à cause de la pandémie, étant donné qu'on ne savait pas trop si les douanes allaient fermer, tout ça, donc j'avais pris la décision de revenir ici au Québec, puis là c'est ça, je suis ici encore là, pour cette session-ci.
Puis en termes de basketball, ton entraînement, ça se passe comment?
C'est sûr que c'est dur d'avoir accès au gymnase encore en zone rouge. Écoute, on a eu un camp d'équipe du Québec féminine là, le mois passé. Puis là, à cause des zones, on n'a pas pu se rencontrer. On a des camps préparatoires qui s'en viennent en espérant que tout ça ait lieu là, avec la pandémie. Mais c'est ça, là, on s'entraîne individuel encore là, pour un petit bout.
Donc, tu t'entraînes individuellement. Une journée d'entraînement, ça ressemble à quoi?
Tu sais, j'ai ici là, des poids puis des élastiques, tout ça. C'est sûr que d'être dans mon fauteuil, là, c'est pas sans gymnase, mettons, c'est pas très adéquat, là, mettons. Là, mais sinon, là, je sais que mon papa et moi, on a fonctionné comme un surélévation, mettons, pour mettre mon fauteuil dessus pour que je puisse pousser, mais sans. Mais dans le beurre, mettons, là, comme sans résistance. Là.
Donc, tu te sens prête quand la compétition va recommencer, puis prête pour les Jeux de Tokyo s'ils ont lieu en 2021?
Oui, exactement. Ouais.
Donc, merci beaucoup, Élodie. Je te souhaite bonne chance, puis on va s'en parler prochainement, on espère.
Merci beaucoup, à bientôt.
Alors, c'est ce qui met un terme à notre émission aujourd'hui. Mon nom est Dominique Tremblay. Je remercie mes invités encore une fois, Kevin Breton, Yvan Deslauriers, François Ménard, François Prince et Élodie Tessier. Je remercie Mathieu Tessier à la régie. Je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit dans deux semaines. Au revoir à tous. Bye-bye.